l'édito de Henri Foucreau.
Alors, merci bien. Un monde en désordre. Le monde est esquinté et possède un besoin urgent d'être réparé. Il restait bloqué sur les directives du siècle dernier, imposées lors des accords de Waterloo en 1944 par les États-Unis. Depuis, une monnaie nationale, gérée par des autorités nationales à des fins nationales, sert d'étalon monétaire international, ce qui est opposé à la souveraineté des États. Depuis, 105 000 entreprises transnationales, mais en réalité américaines ou anglo-saxonnes, dominent le monde, réalisant les deux tiers du commerce mondial. Elles achètent, vendent, font des transactions pour le plus grand bénéfice de leurs banques, du dollar et des marchés financiers. Deux chiffres parlent d'eux-mêmes. Production mondiale, 100 000 milliards. Pour financer cette production, la masse d'argent est à deux chiffres, avec 19 zéros derrière. Nous ne pouvons que compter cet argent en quadrillion. Quel État, quel camp, clan ou parti peut désormais s'y opposer? La souveraineté des nations a bien disparu. Depuis, nous vivons dans un état de soumission. Le droit international est en réalité dicté par la nation dominante, avec une tentation de plus en plus prononcée d'autres certains d'imposer leur force par la paix, par la force. Bon, d'imposer leur fait, c'est le contraire. D'imposer leur paix par la force. Et le plus terrible tremblement s'annonce, celui qui sera provoqué par la démocratie dans le monde occidental, avec trois avatars annoncés, un changement de civilisation, des dépenses publiques qui vont une fois de plus s'emballer, un manque de main-d'œuvre important. Ces éléments sont contraires à l'aspiration des États et des hommes issus de nos régions. Tout cela et du reste, une partie de notre monde occidental l'accepte de moins en moins. Celui du Sud global le réfute totalement et la majorité des hommes s'y opposent fortement. Pour le problème démographique, une question se pose, va-t-on continuer à se voiler la face? En France, de plus de 2 enfants par femme, nous sommes passés soudainement à 1,62. Donc, le seuil de renouvellement de la population n'est plus atteint. La part des seniors est passée de 16,8 en 98 à 21,8 aujourd'hui, et ce sera 28,9 en 2068. Les dépenses dues à ce vieillissement sont passées de 40% en 1998 à 55% en 2005 et ce sera 60,8% en 2070, toujours des chiffres de la Cour des comptes. Nous sommes ainsi confrontés à une érosion des recettes et à une explosion des dépenses en matière de vieillissement de la population. Elles deviennent numéro un des dépenses publiques, tout en restant néanmoins les grandes absentes des budgets et des débats budgétaires. Pour financer ces dépenses, il va falloir arrêter les luttes partisanes, augmenter le taux d'emploi aux deux extrémités de la vie active et prendre en compte non plus le plus âgé, mais les années de travail pour accéder à la retraite. Le forum que je représente a lancé des dossiers sur le sujet dans les années 90 et nous proposions déjà, à cause de ce vieillissement, voir les travaux d'Alfred Sauvy, une modification du financement de notre protection sociale en la faisant basculer du monde du travail à celui de la consommation, avec la TVA sociale dont le nom a été très mal choisi. Reprenant les thèses définies par Sauvy, créateur et patron de l'INED, je sais qu'un déclin économique suit obligatoirement le vieillissement des populations et comme je reste persuadé que le système par répartition est celui qu'il faut à la France, chacun peut mesurer l'œuvre capitale qui reste à poursuivre pour sauver la protection sociale à la française. Mais la réparation du monde, elle passe obligatoirement par la réforme du système monétaire international. Le désordre dans lequel nous sommes plongés provient du fait que la finance a pris le pas sur l'économie et surtout sur le politique. Résultat, des inégalités plus que criantes, hurlantes entre individus, entre États, mais aussi par régions qui, un jour ou l'autre, vont occasionner des révoltes qui seront difficiles à contenir. Ce que nous pouvons constater, c'est que les accords de Waterloo, qui ont surtout assuré la domination financière puis économique des USA sur les États du monde occidental en particulier, avaient été négociés avec l'accord d'aide des USA envers ces États du monde occidental. Aide qui disparaît un peu plus chaque jour, Chaque étape, désormais, se sent le dindon d'une farce indigeste. Nous avons donc à revoir la redistribution des richesses, celle issue de la production, mais surtout celle issue de la spéculation, qui rapporte désormais plus que la production. Deux chiffres. Production mondiale, 100 000 milliards. Argent qui circule, deux chiffres, suivis de 24 zéros, avec, de la part du dollar dans cette manne spéculative, qui représente encore 80% du total. Pour ajouter à ces désordres, les États ont perdu leur souveraineté monétaire, 90% de cette masse monétaire mondiale provenant de banques privées qui la distribuent comme bon leur semble, ou plutôt à qui bon leur semble. Permettre à des banques de créer de l'argent, ex nihilo, pour le prêter avec intérêt, incite l'investisseur à emprunter uniquement pour prêter. Beaucoup manquent d'argent, États et individus, alors que d'autres l'entassent dans des coffres installés dans des paradis fiscaux. La route du bonheur aujourd'hui se nomme Dubaï, alors que celle qui mène à l'industrie n'est plus empruntée par la finance et par les financiers. Pour remettre de l'ordre dans la maison, il faut donc, et c'est urgent, installer un SMI qui prenne en compte les besoins des États et des hommes. Que les deux puissances mondiales en matière d'économie soient les deux puissances les plus endettées par leur propre création monétaire est une catastrophe mondiale que nos enfants vont payer très cher. Il nous appartient donc d'ordonner le monde afin de l'espoir d'une vie meilleure réapparaisse à nouveau.
Alors, voilà. Alors entre-temps,
on est dans un trou là.
Nous avons pu joindre Jean-Michel Nolot.
Alors, on a qui au téléphone là?
Jean-Michel Nolot.
D'accord, très bien. Voilà. Vous le présentez.
Voilà. Et nous recevons donc Monsieur Nolot, ancien banquier et ancien membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, dont il a présidé la Commission des marchés. Il est l'auteur de La crise financière, Pourquoi les gouvernements ne font rien, en 2013, aux éditions du Seuil, et un deuxième ouvrage important, Éviter l'effondrement, en 2017, aux éditions du Seuil. Le sous-titre était « Et les politiques nous préparent une catastrophe financière », pire que la précédente. C'était bien en 2017. Il est également signataire de nombreux articles concernant notamment le financement du plan de relance européen anti-Covid, un plan de 750 milliards d'euros en capital qui date de 2018 et rebaptisé depuis Next Generation EU. Et puis récemment, d'une tribune co-signée en décembre dernier avec Julien Aubert et Jean-Éric Schottel, où il questionne le dernier plan européen concernant l'Ukraine, un plan de 90 milliards d'euros, si je me souviens bien, en rappelant notamment que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est explicite. Le budget doit être équilibré et financé par des ressources propres.
Merci, merci Alain. Jean-Michel Nolot, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, vous n'êtes pas dans les studios parce que en Bretagne, vous nous avez fait la joie de bien vouloir nous répondre par téléphone quand même. Dites-moi, cet article qui est passé dans le Figaro, Vox Tribune, signé avec Julien Aubert et Jean-Éric Ciotti, est-ce que vous nous parlez quand même de la dette française, mais vous mettez surtout l'accent sur ce qui se passe entre la monnaie partie allemande et partie française? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, on a écrit cette tribune tous les trois avec Julien Aubert, qui est un des vice-présidents là, de LR, et puis Jean-Éric Schottel, qui est un juriste des plus réputés sur la place, parce qu'il y a plusieurs soucis dans cette opération qui vient d'être évoquée. Effectivement, il a été décidé d'emprunter 90 milliards au niveau de l'Union européenne à Bruxelles et puis de les donner à l'Ukraine pour équilibrer ses comptes budgétaires sur les deux années qui viennent, parce que l'Ukraine est quasi en défaut de paiement là, à quelques semaines près, oui. N'a plus les moyens de faire face à ses besoins de trésorerie. Alors, on présente cette opération de 90 milliards qui vont être débloqués sur les deux années qui viennent, comme si tout ça ne posait pas de problème particulier. Et en fait, il y a toute une série de problèmes tout de même qui se posent, et moi je suis très étonné que la presse ne se fasse pas davantage écho des problèmes à la fois financiers, juridiques, politiques. Pour commencer, la France, il y a trois pays sur les 27, des pays d'Est comme la Hongrie, la Tchéquie, et puis je crois peut-être la Slovénie, qui s'abstiennent dans cette opération. Ce qui veut dire que la France, qui a eu d'habitude une part de 18% dans les opérations, ce qui est quand même tout à fait considérable, va avoir là à peu près une part de 20%. 20% de 90 milliards, si je calcule bien, ça fait 18 milliards.
C'est ça.
18 milliards, c'est une somme absolument considérable. Quand on voit les discussions de ces derniers mois sur le budget 2026, on mesure à quel point cette somme est importante. On parle d'un prêt à l'Ukraine, mais en réalité... Alors, tout ce que je vous dis là ne remet pas en cause le fait qu'il faut aider l'Ukraine à faire face, quelle que soit l'analyse qu'on peut avoir sur la situation de fond en Ukraine. Mais on parle d'un prêt. En réalité, il ne s'agit pas d'un prêt, il s'agit d'un don qui va être financé par emprunt européen. Pourquoi il s'agit d'un don ? Parce qu'on dit... c'est un prêt qui sera remboursé par les réparations russes. C'est totalement infondé, parce qu'il n'y aura jamais de réparation à propos de la guerre en Ukraine. C'est complètement évident. Donc on donne l'impression à nos concitoyens que tout ça va être remboursé. Mais en fait, ce ne sera pas remboursé. Et d'ailleurs, c'est une opération qui est prévue, si elle devait être remboursée, sur une très longue période. Et pendant cette période, eh bien, on va payer des frais financiers en plus des 18 milliards qui vont être débloqués. Les frais financiers, c'est 3 à 4% par an.
C'est ça, voilà.
Donc, si vous voulez, ce sont des sommes très significatives. On tord quand même la vérité pour donner l'impression aux citoyens que tout cela est du solide. Sur le plan juridique, il n'y a plus aucune réserve qui soit rappelée, alors que en réalité, comme c'était dit à l'instant, eh bien les traités, là en l'occurrence ce sont les articles 310 et 311 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui interdisent effectivement, le texte a été rappelé, interdisent les emprunts. Donc, petit à petit, à mesure que les années passent, eh bien, on prend de très mauvaises habitudes. La précédente opération, c'était l'emprunt Covid de 2020, qui était destiné à faire face à une situation effectivement très grave.
Oui.
Mais à l'époque, les parlements nationaux ont été amenés à se prononcer parce que la Commission et les gouvernements se sont dit tout de même, c'est un coup de canif dans les traités, ce serait quand même plus sûr sur le plan juridique de faire voter les parlements nationaux, qui n'est pas un jour un recours devant la Cour de justice européenne qui dise oui, là, votre opération n'est pas valide. Compte tenu des montants, ce serait très embêtant. Donc, pour l'emprunt de 2020, avant qu'il soit mis en place, en janvier 21, le Parlement français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ont été amenés à voter. Et là, cette fois-ci, on fait voter le Parlement européen, mais on ne parle plus des parlements nationaux. Et ça, c'est quelque chose de très choquant, parce que petit à petit, la Commission grignote un territoire aux dépens des gouvernements. Et dans la présentation que Ursula von der Leyen avait faite en juillet de l'année dernière, le nouveau budget à 7 ans de l'Union européenne, eh bien, Ursula von der Leyen avait glissé l'idée qu'elle souhaitait avoir un espèce de blanc-seing en dehors des parlements nationaux pour pouvoir emprunter 400 milliards en cas de crise. Et là aussi, moi j'avais fait un papier déjà dans, je ne sais plus si c'était Figaro, bon, peu importe, pour dire c'est au gouvernement d'être vigilant sur l'application des traités. Et j'observe que les parlementaires, là, ne réagissent pas, et y compris les parlementaires européens. En fait, quand on voit comment a été votée il y a quelques jours cette opération sur l'Ukraine, les 2/3 des parlementaires européens ont voté l'opération sans vraiment rentrer dans le détail technique. Et aujourd'hui, la technique, moi je dis toujours ça, c'est parce que je le pense très sincèrement, c'est très important, si vous voulez, de voir. Alors, Henri, vous faisiez allusion, je peux peut-être en dire un mot, au problème que cela pose entre la France et l'Allemagne.
Bien sûr.
C'est un point, un premier point qui est très, très important, c'est le fait que il y a eu, avant la mise en place de cette opération, une divergence entre la France et l'Allemagne, et les divergences ont tendance à se multiplier en ce moment. Mais il y a eu une divergence, et on est passé, à mon avis, alors là, d'anciens banquiers, à deux doigts d'une catastrophe. Parce que l'Allemagne, qui est contre les emprunts européens, a dit, eh bien, on va se servir sur les avoirs russes qui sont détenus à Bruxelles par une institution financière qui est considérable. C'est une des plus grandes institutions financières en Europe, on en parle peu, mais elle est très importante. C'est la société Euroclear. Et la société Euroclear détient des avoirs russes pour 190 milliards. Et donc les Allemands disaient, eh bien on va prendre en garantie ces avoirs russes pour notre opération de 90 milliards. Mais il y a un principe dans la finance qui est sacré, il n'y en a pas mille, hein, il y en a un qui est sacré, c'est que les contrats doivent être respectés. Non. On ne s'occupe pas de savoir qui est de l'autre côté, est-ce que ce sont des gens qu'on aime bien ou pas. On doit respecter la lettre des contrats.
Ce qui paraît
si
normal.
Si vous ne respectez pas la lettre des contrats, dans la seconde qui suit, vous pouvez avoir une crise systémique, c'est-à-dire que la confiance est brisée. Et ça, là aussi, franchement, les politiques auraient dû être beaucoup plus explicites sur tout ça. C'était une question très, très importante. Donc, Dieu merci, on n'a pas pris en garantie les dépôts qui avaient été faits dans le passé, par l'État russe, hein. Donc c'était une chose importante.
Je voulais
mais
vous...
sinon, oui.
Non, allez-y, Jean-Michel Deneau, vous inquiétez pas.
Pour répondre à votre question sur la France et l'Allemagne, moi j'ai fait d'autres papiers là-dessus parce que depuis plusieurs années, on voit que la dette française. Ce n'est pas simplement un problème pour la France, c'est un problème de quelque sorte de rapport de force entre la France et l'Allemagne pour savoir qui conduit les affaires européennes. Est-ce qu'on le fait à deux ou est-ce que chacun essaye de le faire seul? Mais il ne faut pas oublier que la France et l'Allemagne, dans le budget européen, ça représente à peu près 44%, c'est-à-dire que deux États représentent presque la majorité, on n'est pas loin, 44%, des finances européennes. Et les 25 autres pays, eh bien, se partagent le reste. Donc moi, j'estime que la France et l'Allemagne, d'abord, ont vraiment... une responsabilité particulière et un droit particulier pour s'exprimer sur les affaires européennes. On n'est pas un État parmi 27, on est à deux, pas loin de détenir la majorité dans les finances européennes. Et ça, c'est très important. Alors, deuxièmement, entre la France et l'Allemagne, moi, j'avais publié dans je ne sais plus quel papier une courbe qui est éditée par Fipeco, qui est un, je conseille aux auditeurs qui s'intéressent à la finance d'aller sur le site de Fipeco, qui est un site extrêmement sérieux, très bien documenté, passionnant sur l'évolution de la dette, des finances et tous les problèmes qui se posent. Eh bien, quand on regarde l'évolution depuis 30 ans de la dette française, les deux courbes, la dette française et la dette allemande, on voit que de 1995 à 2010, les 15 premières années, de 2007-2010, eh bien, les deux courbes de la dette évoluent exactement pareil. Alors, la dette augmente un peu dans les deux pays, l'Allemagne à cause de la réunification, nous parce que il a fallu préparer l'euro. Et bon, peu importe les causes, en tout cas, l'évolution était strictement identique. Les deux courbes s'enlacent l'une et l'autre. Et puis, à partir de 2010-2012, les courbes se séparent complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Allemagne, dans les années 2015-2020, c'est-à-dire la période qui précède le Covid, l'Allemagne fait un effort considérable et comme d'autres pays, les Pays-Bas, Danemark, etc., font des économies de dépenses publiques tout à fait significatives, réduisent leurs dettes au point de s'approcher de 50%. Et la France, au contraire, maintient la dette en pourcentage et après la crise Covid, une fois la crise passée, elle continue à dépenser comme si on était toujours dans la crise Covid. Donc on se retrouve aujourd'hui avec deux taux complets, des courbes complètement divergentes. L'Allemagne est à 63% du PIB. Oui. Nous, nous sommes sur le troisième trimestre de l'année dernière à 117%. Voilà. C'est un écart considérable et qui va se poursuivre parce que l'Allemagne, la France, avec le budget qu'elle vient de voter, un déficit de 5%, elle se retrouve à coup sûr d'ici la fin de l'année à 120%. Oui. Et ça, c'est un problème très important parce qu'on voit que depuis quelque temps, les rapports de force entre la France et l'Allemagne évoluent au détriment de la France en Europe. L'Allemagne a décidé, compte tenu de son taux d'endettement très raisonnable, de dépenser massivement pour ses infrastructures et pour son réarmement. L'objectif de l'Allemagne, comme l'a dit M. Merz récemment, c'est de devenir, d'ici quelques années, je crois même d'ici 2030, la première armée conventionnelle en Europe.
C'est ce qu'elle a dit, oui.
Et il faut jamais oublier que tant que c'est avec la CDU, c'est pas un souci, mais demain, si c'est l'AFD, ça change un petit peu la manière de réfléchir. Et pardonnez-moi. Et donc, c'est incontestablement un souci. On voit que l'Allemagne a tendance à considérer la relation avec la France un petit peu comme la relation avec d'autres pays. Elle s'est rapprochée de l'Italie. L'Italie fait de gros progrès, a maintenant un revenu par habitant qui est équivalent à celui de la France, ce qui est quand même... Alors, certains expliquent ça sur le plan technique, mais en réalité, c'est bien un mouvement de fond. Donc, cette année, en 2026, l'Allemagne va dépenser au niveau des ses dépenses publiques, donc pour les infrastructures et l'armement, va emprunter un peu plus de 500 milliards, la France va emprunter 300 milliards,
voilà.
Ce qui est déjà considérable pour la France.
Eh oui.
Donc, voyez bien que, on le disait il y a quelques années, mais là, maintenant, c'est une certitude, si vous voulez, les rapports de force et l'influence des deux pays évoluent au détriment de la France en Europe.
Ça, c'est extrêmement gênant, surtout qu'il s'agit là, à mon avis, d'une volonté allemande.
Ah ben oui, ils ont une constance, ils sont écoutés. Et puis, voilà, l'Allemagne a aussi fait des erreurs hein, sa politique énergétique, etc.
Mais absolument. Là,
si vous voulez, le fait d'être peu endetté, ça laisse précisément, pardonnez-moi, la possibilité de rebondir lorsqu'il y a une crise. Et là, c'est ce qu'ils font très bien.
Hein. Oui, tout à fait. Dites-moi, il y a quand même quelque chose... Oui, allez-y.
Oui.
Excusez-moi, Jean-Michel.
Non, je vous en prie, allez-y.
Je voulais simplement vous poser une question que peuvent se poser tous les auditeurs de Radio Courtoisie. L'Allemagne, en définitive, lorsqu'on regarde la croissance, la France a eu depuis 2-3 ans une légère croissance, ce que n'a pas l'Allemagne, qui est en décroissance. Comment expliquer alors que la France s'endette plus que l'Allemagne ?
Le fait de raisonner sur 2 ans...
suffit pas.
Bon, à mon avis, n'est pas très convaincant. Hein,
d'accord.
Parce que l'Allemagne est juste en dessous des 0%.
Et nous, juste au-dessus.
Et la France est juste au-dessus.
Oui, c'est vrai.
Je crois qu'on est actuellement sur une tendance de 0,5-0,6%.
Oui.
C'est-à-dire pratiquement une croissance zéro. Et certains disent qu'en réalité, s'il n'y avait pas des aspects techniques dans la gestion des stocks, eh bien, on serait à 0%.
Oui.
Donc, je crois que ce qui est très, il faut raisonner sur le moyen terme. Et la France a un très gros handicap en matière de croissance et de recettes publiques. Je pense, c'est une analyse de Patrick Artus que je partage complètement. C'est le fait que le taux d'emploi des jeunes est très inférieur à celui de nos partenaires européens et le taux d'emploi des seniors est très inférieur à celui de nos partenaires européens. Donc c'est vraiment, je partage cette analyse de Patrick Artus, c'est à ces deux niveaux, les jeunes et les vieux,
voilà.
qu'il faut intervenir. Parce qu'on est en décalage par rapport à tous ceux qui se portent bien en Europe.
Tout à fait.
Et ça, le fait d'avoir une force de travail inférieure à celui de nos partenaires, ça coûte énormément en termes de croissance et de recettes budgétaires.
Oui.
C'est un point clé, à mon avis, pour la prochaine présidentielle. Et je suis étonné que qu'on n'en parle pas plus parce c'est un vrai problème.
Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et cher Henri, pour les jeunes, c'est quelque les seniors encore, on peut se consoler. Ils ont quand même en général un petit peu leur activité professionnelle derrière eux. Dans beaucoup de pays étrangers, ils continuent, et ça, c'est très bien. Mais pour les jeunes, c'est dramatique. Et on voit bien que le problème du travail chez les jeunes, c'est le problème l'éducation, à commencer par l'école, et puis ensuite de la formation professionnelle, etc. En Allemagne, en Suisse, on est quelquefois orienté vers 12-13 ans, vers des activités professionnelles. Alors que nous, on a eu une stratégie complètement différente qui est de pousser le maximum d'élèves vers les études supérieures. Donc là, il y a un très gros problème, il y a un effondrement de l'école. Je recommande à ceux qui sont intéressés un excellent livre qui est sorti il y a 3 mois sur l'immigration et l'école.
Ah.
C'est un livre de Joachim Imad, Le Floch, et qui est le directeur de la fondation Res Publica, et qui montre à quel point, et il est, lui qui est fils d'immigrés, il est bien placé pour pouvoir le dire sans provoquer de polémique, mais il montre que le surnombre dans certaines parties du territoire au niveau de l'école rend insoluble la diffusion d'un enseignement de qualité, quoi. Voilà, c'est vraiment un livre qui est très intéressant à lire.
Bravo de le dire et de le souligner pour nos auditeurs qui vont certainement, des auditeurs nous suivent dans les lectures de livres lorsqu'on désigne les livres. Je voudrais vous parler d'autre chose, Jean-Michel Nelot, pendant que je vous tiens. Dites-moi, la monnaie chinoise qui est dévaluée de 22%, le dollar américain qui se dévalue vis-à-vis de l'euro, hein, je parle, de 16%, comment on peut s'en sortir? Il est quand
C'est une politique qui complète la politique commerciale, c'est-à-dire que la Chine, comme les États-Unis, on l'a bien vu, ils sont très soucieux de se protéger dans les secteurs qui sont vulnérables, etc. Ils n'hésitent pas à piétiner toutes les règles internationales. Et la dévaluation, eh bien, ça va dans la même direction. Et aux côtés de Trump, en ce qui concerne les États-Unis, il y a des gens comme Miran, qui est d'ailleurs un économiste réputé, qui plaide pour la dévaluation du dollar. Et ça va là aussi, il y a un lien avec le niveau des taux d'intérêt. Si les États-Unis baissent très fortement leur taux d'intérêt, eh bien le dollar,
bien sûr,
les capitaux seront plus attirés de la même façon vers les États-Unis. Donc voilà, mais bon, ce sont les Américains qui ont provoqué l'éclatement du système monétaire en 1971,
oui,
ce qui a été une rupture terrible. Mais aujourd'hui, toutes les armes sont utilisées, qu'elles soient commerciales, monétaires, voilà. Donc, ça fait partie de la vie, hein, de la vie internationale.
Ça pèse.
La vie monétaire, commerciale.
Ça pèse quand même, hein, parce que...
Oui, bien sûr. Bien sûr, la baisse du dollar, il y avait des articles ces jours-ci dans la presse sur les problèmes que ça posait à Airbus. Donc,
ah oui, oui, j'ai vu ça.
Oui. Donc, voilà.
Parce qu'il n'est quand même pas normal. Et là, ça ne colle pas qu'une économie, l'économie américaine, en taux de croissance, est supérieure à l'économie même de l'Allemagne, de la France, etc. etc. Et sa monnaie est en dessous. Ce doux commerce dont on attendait beaucoup, vous savez, avec cette libre concurrence qui était non faussée, tout ça, c'est faux.
Ben le problème, c'est que l'Europe, depuis 20 ans, 30 ans, à une politique commerciale, et là-dessus, je crois que vraiment beaucoup, beaucoup d'économistes sont d'accord. Certains en ont pris conscience très tard, mais c'est une politique commerciale très naïve. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe ne se protège pas du tout. Bon, vous avez vu comment l'Europe a réagi dans la négociation avec Trump il y a 6 mois. Donc, ça, c'est un très gros problème. Moi, je suis, depuis des années et des années, mais ça, je crois vous l'avoir déjà dit, je suis très favorable à une taxe carbone européenne.
Mmh.
Mais actuellement, on a ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est-à-dire une taxe carbone est appliqué sur quelques matières premières comme l'aluminium, l'acier, etc. Mais on a les importations européennes C'est 2500 milliards, c'est un chiffre de 2500 milliards. La taxe qu'on a décidée aux frontières, elle va rapporter 1 milliard. Donc, c'est quasiment rien. Et en fait, il faudrait pouvoir... l'idée de la taxe carbone, c'est de taxer des importations qui ne supportent pas les mêmes contraintes écologiques que la production industrielle qui est faite en Europe. Donc, on met à niveau pour que la concurrence soit loyale. Donc, je pense que l'idée est très bonne. C'est une idée qui est dans l'air depuis 20 ans. Hein. Je crois que c'est Chirac le premier qui avait évoqué ça. Et donc, moi, quand la taxe aux frontières a été décidée il y a deux ans, je me réjouissais, mais le problème, c'est que les Allemands, par souci du libre-échange, ont torpillé le projet.
Non, bien sûr.
Donc, au début, ça devait rapporter 15 milliards, et en fait, ça rapporte 1 milliard.
Mais oui.
Donc, et en plus, les hauts fonctionnaires de la Commission sont attentifs au fait que certains se plaignent du fait que la taxe sur l'aluminium, l'acier, vient augmenter les coûts de production en Europe. Mais ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on veut avoir des conditions de compétition égales, équitables, eh bien, y a un coût. Et puis, on a toujours moyen, si vraiment c'est un inconvénient pour des entreprises qui sont plus vulnérables que d'autres, ben, on a toujours les moyens, avec les ressources de la taxe carbone, d'aider certains industriels, hein, donc, certains agriculteurs.
Et puis se protéger aux frontières.
Voilà. Oui, bien sûr. Donc, voilà, mais je pense que ce serait la bonne solution, parce qu'actuellement, forcément, on importe massivement de Chine, et parce que les conditions de production ne sont pas du tout les mêmes. Mais vous savez, y compris en Europe, moi j'en parlais récemment, dans l'industrie alimentaire, au sein même de l'Union européenne, on ne fait pas respecter, on n'a pas les mêmes contraintes d'un pays à l'autre. Hein, donc, ce qui n'est pas normal.
Ce qui n'est pas normal. Oui, je suis d'accord avec vous. Dites-moi, dans les remèdes que vous préconisez pour nos problèmes sur la monnaie, pour nos problèmes avec l'Allemagne, etc., c'est la maîtrise sélective des dépenses publiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on maîtrise?
Non, mais je pense qu'on n'échappera pas à un effort significatif pour réduire les dépenses publiques. Parce que actuellement, la part qui est consacrée notamment par le budget social, qui inclut le problème des retraites, mais même en retirant le problème des retraites, il faut absolument faire subir une cure d'amaigrissement à notre budget social.
Ça, c'est dans le budget social, oui.
Voilà, et puis c'est lié aussi, dans certains cas, au problème de l'immigration, etc. Il faut regarder tous les problèmes en face, mais c'est évident que là, c'est peut-être le problème le plus important pour la campagne présidentielle. Moi, j'ai tendance à croire qu'il faut mettre les problèmes sur la table pour la présidentielle.
Oui.
Et que, vous savez, c'est un petit peu comme en 58, hein.
Tout à fait.
Quand on observe les mesures qui ont été prises en 58, il se trouve que j'ai eu l'occasion de me repencher là-dessus récemment, eh bien, c'était un cocktail entre des réductions de dépenses publiques, mais une augmentation de certains investissements, mesures de justice sociale, même voyez, les mesures qui avaient été, on a beaucoup dit en 58, on a supprimé la retraite des anciens combattants.
C'est vrai.
C'est pas comme ça que ça s'est présenté. En réalité, les anciens combattants qui étaient valides, et puis ceux qui avaient des revenus par ailleurs, eh bien, c'est à eux qu'on a demandé cet effort. Mais il faut un mélange de justice sociale, notamment pour les plus défavorisés. On a un taux de pauvreté en France aujourd'hui qui est extrêmement élevé.
Absolument.
C'est très choquant. Donc, de la justice sociale, des efforts. Et là, on sera bien obligé de prendre des mesures courageuses. Donc, je crois que les candidats qui n'hésiteront pas à dire la vérité là-dessus, ben, mériteront, je vous dis les choses comme je le pense, et mériteront le suffrage des électeurs, parce que c'est la seule manière de retrouver la prospérité.
Là, moi, je vais vous dire ce que je pense sur cette affaire. On a d'un côté les dépenses publiques, ou les dépenses d'ailleurs, et puis de l'autre côté, on a des recettes. Et lorsque je parle de recettes, je ne parle pas des impôts, ni des taxes, ni de ceci, je parle simplement des productions et ce qu'on tire des productions. La majorité des gens disent « Ah, il faut rogner dans les dépenses publiques ». Oui, mais à chaque fois qu'on veut rogner dans les dépenses publiques, il y a une partie de la population qui se lève en disant « Oui, mais pas moi, les autres, mais pas moi ». Donc ça va être extrêmement difficile. Par contre, ce qu'il faudrait relancer quand même, c'est la production, c'est-à-dire le PIB. Qu'est-ce qui nous gêne
actuellement ? Oui, mais ça, cher Henri, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais d'action sur l'emploi des jeunes, la formation professionnelle, et puis d'action en faveur du travail des seniors.
Tout à fait.
C'est là qu'on peut aller créer... Enfin, c'est la thèse de Patrick Artus, moi, encore une fois, je la partage complètement. C'est là qu'il y a des ressources, des réserves de richesses, si vous voulez. Donc, il faut agir sur le temps de travail. Hein. On travaille moins. Moi, j'avais des chiffres de l'OCDE, mais qui ont certainement leur part de vérité. La force de travail en France est 9% de moins que l'Allemagne et 20% de moins que les États-Unis.
Oui.
C'est là qu'on a des réserves de création de richesses.
Tout à fait d'accord avec vous. Mais je voulais vous indiquer une autre piste, celle qui me tient à cœur depuis longtemps. Un produit qui est fabriqué en France supporte des charges sociales, qu'elles soient salariales ou patronales. L'entrepreneur, celui qui produit, paye ses taxes avant que le produit soit vendu, ce qui est absolument anormal, et cela grève le produit. En face de lui, il y a des concurrences de pays qui n'ont pas de protection sociale. Alors moi, je suis un 100%, persuadé que la protection sociale, il faut la conserver, et ce système par répartition. Seulement, on ne peut plus supporter de faire payer la protection sociale par le seul monde du travail. Je reviens, Jean-Michel Nolot, je reviens vers vous dans 2 minutes, on passe un petit bobino et je vous reprends.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci. C'était Jean-Michel, excusez-moi de vous avoir coupé, mais il y avait ce petit bobino que l'on passe à chaque fois. Oui, moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit en définitive qu'on déplace le financement de la protection sociale du monde du travail à celui de la consommation. C'est-à-dire, produit fini...
Ah ben, je suis totalement d'accord avec vous.
Eh ben alors, d'accord. C'est mon combat depuis longtemps.
Mais... Oui.
C'est mon combat depuis des années.
Eh ben, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord.
J'avais
Parce
vu...
Que c'est, écoutez, ça rejoint le problème que j'évoquais il y a 5 minutes sur l'écologie.
Pareil, exactement.
Il faut l'écologie, si on veut avoir des normes qui permettent d'assurer la compétitivité, etc., c'est bien le consommateur qui va supporter ce coût-là, si vous voulez, pour aider nos industriels. Eh bien, le problème que vous évoquez, c'est exactement le même.
Tout à fait.
Le modèle social, il doit être financé par ceux qui consomment.
Tout à fait. On est d'accord.
Et ça, on est bien d'accord.
On avait...
Il faut avoir le courage de le dire.
J'avais invité un jour Henri Guénaud à ce studio et qui avait eu le courage de tenter une TVA sociale, mais elle n'était pas bonne leur TVA. Eux, ils ajoutaient de la TVA à la TVA, c'est pas ça du tout qu'il fallait faire. D'ailleurs, le nom de TVA sociale est très mal choisi, dès qu'on parle.
Oui, je crois.
Très, très mal choisi. Oui. J'en ai pas trouvé d'autres, mais moi, je suis très heureux que vous soyez d'accord.
Ben, vous savez, c'est le même problème que pour les tout ce dont on discute ces derniers mois sur l'importation des de tisser tout ce qui permet de s'habiller à des coûts proches de zéro, etc. Bon, voilà, si on veut rétablir notre industrie, il faudra bien faire un effort un jour ou l'autre d'importer un petit peu moins à des coûts zéro et puis de payer correctement nos ouvriers.
Je dois prendre la parole lors d'une réunion demain. Alors donc, les gens voulaient vous inviter. Je leur ai dit que vous étiez en Bretagne, ce n'était pas le moment. Et je vais évoquer justement ce problème de protection sociale et de son financement. Alors la réunion va comporter beaucoup d'industriels, d'artisans, de commerçants, etc., etc., qui, à mon avis, devraient être intéressés et se battre pour aller dans ce sens-là. Jean-Michel Nelot, est-ce que vous avez autre chose à...
Écoutez, j'étais ravi de pouvoir échanger avec vous.
Très belle intervention. Très, très belle intervention.
Eh bien, alors, à très bientôt, Henri.
Je vous dis à très bientôt, Jean-Michel. Merci.
Au revoir et au revoir aux auditeurs.
Merci.
Eh bien, nous recevons ce soir dans le studio, et c'est d'autant plus exceptionnel, Jacques Hogard, pour parler de la France, de l'Afrique et de la région des Grands Lacs, en particulier.
En Afrique aussi.
Évidemment. Le colonel est là, et là, nous allons le savoir en détail avec le colonel qui connaît très bien l'Afrique. Le colonel Jacques Hogard est un officier supérieur français, ancien parachutiste de la Légion étrangère, qui a reçu de nombreux commandements. En 2000, après son dernier commandement, celui du groupement interarmé des forces spéciales au Kosovo, il choisit la retraite anticipée. De ces deux derniers et importants commandements, au Rwanda, dont nous allons parler, puis au Kosovo, dont nous ne parlerons pas, il nous a livré deux récits à la fois courts, profonds et très importants. Deux récits qui resteront. Tout d'abord, les larmes de l'honneur, en 2005, publié chez Hugo Doc, où on rétablit la vérité sur cette terrible période de génocide, de rébellion, de pillage et d'exode. Un ouvrage qui fut réédité en 2016. Enfin, l'Europe est morte à Pristina, en 2014, chez Hugo Doc. On y explique clairement le sentiment amer d'un engagement irresponsable dans un conflit injuste, le symbole de tous les échecs et des reniements français et européens. Et puis un troisième ouvrage, en 2024, il y a deux ans, chez Hugo Doc, toujours, « La guerre en Ukraine », avec comme sous-titre « Regard critique sur les causes d'une tragédie ». Un texte argumenté et historiquement documenté, qui nous offre un éclairage nouveau. Un ouvrage qui vient à contre-courant des opinions généralement admises ou répandues en France, en Europe et dans les pays occidentaux.
Je vous donne la parole. Mon colonel, très heureux de vous revoir.
Oui, ça fait quelques années. Avec plaisir.
On avait à l'époque traité du problème du Rwanda.
Exactement.
Il y avait M. Péan qui était avec vous. Il y avait l'histoire avec Saint-Écluse du Péry, le neveu, pas le grand pilote, le neveu.
Pas Antoine, mais Patrick.
Oui, Patrick. Je rappelle quand même, pour situer un petit peu le colonel Hogard, qu'il est fils d'un général, qu'il est frère d'un général, cousin du général de Bénouville.
Oui, neveu. C'est mon oncle propre.
Ah, c'est votre oncle.
C'est le frère de ma mère. Oui.
Et que vous voyez un peu la famille. Et puis, tout à fait par hasard, j'ai appris cette semaine que vous étiez le cousin de mon ami François Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture, qui vient souvent ici, qui est souvent mon invité.
Et dans le cousinage, j'en suis très fier, parce que c'est
un grand monsieur.
C'est un grand monsieur. Ouais.
Vous savez, dans les combats que les hommes politiques ont menés, il a mené un combat extraordinaire qui est passé sous silence, c'est-à-dire que, pendant un moment, le Deutschmark étant tellement élevé par rapport à la France, on avait inventé, un abruti avait inventé un montant compensatoire monétaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Allemagne nous livrait quelque chose, on l'a dédommagé en lui donnant des francs. Et c'est notre ami François Guillaume qui a arrêté ce processus, je trouve que c'est très bien. Nous allons, mon colonel, parler de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on nous a chassés d'Afrique, tout simplement.
Où nous nous sommes un peu chassés d'Afrique aussi, alors, on va en parler.
Mais... Vous avez tout à fait raison. Nous nous sommes chassés d'Afrique. Nous avons commis quelques... Vous savez, je suis un ancien, je vous l'ai dit, de l'école de formation des officiers d'outre-mer. Et à l'époque, cette école a formé tout un tas de présidents, etc., etc. Et puis on a supprimé cette école. Peut-être une des raisons pour laquelle nous partons d'Afrique. Et le lendemain, nos élèves officiers étaient à Moscou. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce problème du recul de la France-Afrique.
Alors, pour moi, il y a une suite, mais vous venez de l'évoquer, en fait, il y a une suite de maladresses ou de fautes qui ont été commises. Je vais prendre chronologiquement quelques exemples. Pour moi, la première chose que les Africains n'ont pas comprise, c'est la suppression du ministère de la Coopération en 1997 par le président Chirac, Hervé Charette étant son ministre des Affaires étrangères, et annonçant que le ministère de la Coopération n'avait plus de raison d'être et devait être intégré, disparaître au sein du ministère des Affaires étrangères. Alors comble d'ailleurs, à mon avis, de maladresse, ce ministère des Affaires étrangères rebaptisé en ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Deux raisons supplémentaires, si vous voulez, pour les Africains de se dire on est abandonné, on est lâché par nos amis français, par la mère patrie, parce qu'à l'époque, ils nous regardaient encore comme la mère patrie. Alors, c'est pas forcément... On va essayer de pas être trop pessimiste dans cette émission, mais je crois que c'est quand même une première faute qui a été commise. Ensuite, il y a eu, sous la présidence de M. Sarkozy, il y a eu un certain nombre de fautes ou de maladresses. Commençons par la maladresse. C'est le discours de Dakar le 26 juillet 2007, qui n'était pas complètement faux dans tout ce qu'il disait, mais qui a été très mal...
il ne fallait pas le prononcer.
Voilà, il ne fallait pas prononcer, qui a été très mal restitué, qui a blessé, en fait, les Africains. Et quand on blesse les Africains, en général, c'est durable. Parce qu'ils ont leur fierté, leur amour propre et leur fierté, et c'est durable. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont enchaînés. Alors, on peut les prendre. J'ai essayé de les remettre en perspective de manière chronologique. Il y a cette élection en Côte d'Ivoire, contestée entre le président sortant, Laurent Gbagbo, et le candidat... Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président et qui entame d'ailleurs un quatrième mandat bientôt, parce que tant qu'à faire, bousculons un peu les constitutions qui vous limitent à deux et passons allègrement à trois, puis à quatre. Ce qui est un vrai problème en Afrique d'ailleurs, de manière générale.
Tout à fait.
Mais pour moi, la faute, c'est de nous être mêlés de cette élection en y rentrant. Je dirais même militairement, puisque nous disposions d'une force sur le terrain, la force Licorne, qui avait joué son rôle quelques années plus tôt, au moment des drames qui avaient secoué la Côte d'Ivoire la fois précédente, je dirais, parce qu'il y en a eu un certain nombre, qui sont succédés depuis finalement la disparition d'Oufouette, ami de François Guillaume, qui était un grand. Il y en a eu quelques, on peut parler de Léopold Sédar Senghor, voilà, etc., mais ces gens-là ont manqué par la suite. La relève n'a pas été forcément assumée ou assurée, si je puis dire. Mais l'erreur, là, la faute, à mon avis, c'est le 11 avril 2011, le président Gbagbo contestant l'élection d'Alassane Ouattara dans des conditions qui restent un petit peu compliquées, je dirais, un peu opaques et pas forcément tout à fait claires. Le président Gbagbo est arrêté par les forces spéciales françaises qui le remettent aux hommes de Ouattara.
C'est pas notre...
C'est une erreur colossale, monumentale. On se mêle, c'est encore la politique de la canonnière, mais dans le mauvais sens du terme, si vous voulez. Parce qu'en plus, moi j'ai rencontré une fois le président Gbagbo, jamais rencontré le président Ouattara. Mais le président Gbagbo, qui avait une réputation, vous savez, depuis les accords de Marcoussi, d'être un peu anti-français, etc., était le fils d'un tirailleur. Il n'était pas anti-français, mais il était agacé par l'arrogance de certains politiques français. Et pratiquement, c'est une constante qui va nous amener jusqu'à nos jours, hein, cette arrogance perçue comme telle des hommes politiques français. Alors, Gbagbo est arrêté par les forces spéciales françaises, il va être traduit à la haie, etc. Un long parcours, il est rentré il y a maintenant un an ou deux en Côte d'Ivoire. Il a été empêché de se présenter à la présidentielle actuelle. Qu'est-on allé faire dans cette aventure? En fait, la raison est exacte, c'est une amitié ancienne, je dirais pas du copinage, mais presque, entre le président Sarkozy et Alassane Ouattara, qui remonte. Ça, c'est une erreur, à mon avis, majeure. Et d'ailleurs, Sarkozy ira à l'investiture de Ouattara le 21 mai 2011 à Abidjan, ce qui est un engagement évident en sa faveur. Sarkozy, toujours, c'est le renversement du régime libyen et le traquenard dans lequel Kadhafi va trouver la mort dans des conditions abominables.
Oui.
Je ne défends pas Kadhafi, qu'on aurait mieux fait d'éliminer 15 ans avant.
Absolument.
À propos de l'attentat des C10 UTA dans le Ténéré, au Niger. On avait des raisons de... Mais entre-temps, Kadhafi avait évolué, comme beaucoup d'autres, était devenu une espèce de pion de stabilité entre l'Afrique, entre le Machrek, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Alors, le tuer, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, mais qui sont probablement plus tournées vers la politique intérieure française que par intérêt,
d'accord.
En tout cas pas intérêt national français, le tuer a provoqué une onde de choc dans toute l'Afrique saharienne et subsaharienne. En réalité, les attentats connus à Grand Bassam en Côte d'Ivoire quelques années plus tard ont comme origine le renversement de Kadhafi, l'ouverture des arsenaux colossaux d'armement de Kadhafi, le retour d'ailleurs d'un certain nombre de ces soldats Touareg dans leur pays d'origine, je pense au Niger en particulier au Mali, qui vont créer l'Azawad, le mouvement de libération finalement de la... Du pays tamazique, du pays berbère, parce que ils se revendiquent tous de la confédération tamazique, et qui va amener finalement l'instabilité dans toute la région, qui n'est pas terminée, puisque après les islamistes sont arrivés par-dessus, il y a eu des alliances conjoncturelles entre islamistes et...
Tout à fait,
c'est ça. Mais bon, mais vraiment, ça c'est une deuxième faute colossale. Tuer Kadhafi en 2011, en octobre 2011, c'est une erreur monumentale là aussi. Alors manipulé ou non par M. Obama et le Premier ministre britannique de l'époque qui était en première ligne avec nous. Mais on retrouve aussi mon dada, les anglo-saxons ou les anglo-américains qui sont toujours derrière nous.
Oui.
Et qui, comme l'a écrit Eric Branca, sont nos chers alliés, l'ami américain, nos chers alliés. Bon. Ça, c'est pour moi une deuxième erreur. Magistral, voilà, donc Dakar, Côte d'Ivoire, Libye, avec toutes les conséquences jusqu'au golfe de Guinée, de déstabilisation des États, des nations, l'augmentation des guérillas de toutes sortes, alors mafieuses souvent au départ plutôt qu'islamistes. Les Touaregs n'ont jamais été très, très djihadistes, islamistes, ils ont épousé la cause. Pour se faire un drapeau, vous voyez, mais... pour pouvoir circuler. Alors, c'est l'époque des mouvements Ansardine, Mujao, avec des figures comme Iyad Ahrali, qui est un chef Touareg de grande tente, si je puis dire, beaucoup plus qu'un islamiste. Alors après, il avait joué le musulman pur et dur, mais pour rallier des sympathies régionales, etc. Mais au départ aussi, ce sont des hommes d'affaires, hein. Tous les trafics ont prospéré à partir de là. Voilà. Ensuite, on a notre ami Hollande, qui va pas briller. Alors si, il a son heure de gloire. Son heure de gloire, c'est Serval, au Mali. Alors là, on est en début d'année 2013, en janvier 2013, quand tout d'un coup, on a l'impression que la route de Bamako est ouverte aux hordes djihadistes, alors ou présumait-elle, oui. qui fondent vers la capitale. Et appel au secours à ce moment-là, et Hollande répond sous, je crois, le conseil de son chef d'état-major particulier de l'époque, le général Puga, que bien connu dans nos milieux. Et c'est l'opération Serval qui va stopper l'opération et qui va permettre de rétablir la situation. Mais Serval a une durée d'une petite année, en gros, et elle va être remplacée par une opération plus lourde et plus durable, entre guillemets, Barkhane. Et là, c'est le militaire qui parle, mais c'est le fils de mon père, si je puis dire, qui parle. C'est qu'une opération militaire n'a de sens que s'il y a un but politique supérieur recherché. Et en fait, il ne s'agit pas de ça. Hollande veut simplement régler le problème, faire des élections, remettre un régime qui ressemble étrangement au régime précédent. On ne guérit pas les maux, on ne va pas à la source du mal, on plaque une solution politicienne, si vous voulez, sur une situation qui ne peut pas durer. Voilà, ça c'est... Alors, et puis, il y a son aventure en Centrafrique, Sangaris, qui est aussi complètement ratée, qui va durer de décembre 2013 à octobre 2016, près de 3 ans, et qui ne grandit pas à l'image de la France non plus, parce qu'on n'a pas un cadre politique bien clair, on ne sait pas ce qu'on va vraiment vouloir faire là-bas. Voilà, et donc, si vous voulez... La dernière étape, et j'en aurai fini.
Si vous permettez.
Je vous en prie.
Je vois un autre mot à tout ça.
Oui.
C'est la coopération. C'est-à-dire la qualité des gens qu'on envoyait là-bas. Souvent des pères qui voulaient se débarrasser du gamin, qui l'envoyaient là-bas. J'ai vu, je ne sais plus si c'est au Sénégal ou si c'est au Togo. J'ai eu un problème un jour. J'ai vu un coopérant avec un revolver à la ceinture.
Oui.
Vous vous rendez compte, souliers cirés, les hôtels, mais pas la brousse.
Oui.
Donc la qualité n'a certainement pas été bonne.
C'est-à-dire qu'on avait, vous en avez parlé à propos de l'effortum, mais on avait aussi, je veux dire, il y avait une école coloniale, en fait.
Oui.
Il y avait un corps des administrateurs coloniaux
Tout à fait.
Qui a été balayé au moment des indépendances CERA, qu'on aurait pu transformer, en fait.
Tout à fait.
Et ça n'a pas forcément, je pense, été fait.
Oui. Mais... On a aussi un petit peu perdu la face lorsque Mitterrand, et c'est bien dommage, avait mis son fils Monsieur Afrique.
Oui.
Un jour,
Papa m'a dit.
Oui. Voilà,
un
avocat qui vient me voir, un avocat du République démocratique du Congo, me semble-t-il, qui me dit, c'est comment on appelle le fils de Mitterrand, Papa m'a dit. Je dis, on a perdu la face.
Oui, bien sûr. On peut remonter évidemment encore plus loin, mais. Parce qu'il y a toute une, je veux dire, il y a toute une antériorité de ce lien qui est très fort, qui à mon avis reste très fort, mais qui est bien abîmé aujourd'hui, au moins en surface. Mais je voudrais dire quand même un mot pour situer toutes ces erreurs et ces fautes successives. Alors l'apothéose, la cerise sur le gâteau, c'est Macron quand même, parce que Macron. On peut citer son discours de Ouagadougou, où il se moque finalement du président Marc-Christian Caboret, président élu à l'époque. Mmh. Il envoie réparer la clim. Devant les étudiants. Oui, mais c'est des choses. Il n'a peut-être pas fait méchamment au départ.
Non, sûrement
pas
d'ailleurs.
C'est stupidement fait. Parce que ça fait pas rire les Africains, ça.
Et il ne connaît pas le problème.
Non, il ne connaît pas. Et puis, il ne connaît pas la mentalité, la psychologie africaine élémentaire.
Absolument.
Donc ça, c'est en novembre 2017. On peut citer le sommet franco-africain de Pau, qui était une véritable foire d'empoigne en janvier 2020. Ouais. Ça n'a pas grandi non plus l'image et nos relations. On peut citer Macron à Kinshasa, face au président Tshisekedi en mars 2023, où bon, ça a laissé une trace aussi, parce qu'il a quand même... je dirais un petit peu humilié le président Tshisekedi, qui ne s'est pas laissé faire, qui lui a répondu d'ailleurs du tac au tac. Mais toujours dans le même séjour à Kinshasa, Macron se fait photographier, filmer en boîte de nuit, dans des boîtes de nuit interlope de Kinshasa. Imagine-t-on un chef de l'État, un président de la République française, oui, par exemple. Mais je veux dire, Chirac ne l'aurait pas fait, mais Mitterrand ne l'aurait pas fait, non, je veux dire. Ils avaient quand même un petit peu de dignité.
Tout à fait, absolument. Hein,
vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est des choses qui choquent. Et puis, je voudrais, mais ça c'est un peu anecdotique, mais c'est pas si anecdotique que ça. Il y a aussi la volonté expresse de nos hommes politiques, à tout prix, d'exporter en Afrique nos mœurs d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'envoi, par exemple, la volonté d'envoyer l'ambassadeur des droits LGBT, Jean-Marc Berton, en octobre 2022, de l'envoyer en juin suivant, en 2023, au Cameroun, le Cameroun a dit non. Mais on aurait pu faire l'économie de, de ce fiasco, parce que... Et ça, c'est une rhétorique que j'ai entendue beaucoup dans des pays différents. Ça va même au-delà des pays francophones, hein, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est fichez-nous la paix.
Fichez-nous la paix.
Fichez-nous la paix. Les Occidentaux, vous avez choisi d'inverser vos valeurs, vous avez choisi d'évoluer comme vous voulez, etc.
C'est votre problème.
Fichez-nous la paix. Nous n'en voulons pas. Alors je pense que tout ça, si vous voulez, ça fait un ensemble de choses qui permet après de laisser la place vide à d'autres qui s'en sont emparés tout de suite. Alors il y avait les Turcs déjà, il y avait les Chinois, il y avait, pour des motifs variés, en particulier économiques. Et puis les Russes, bien sûr, qui sont arrivés, qui sont engouffrés dans la place. On peut parler du Sahel, parce que si on veut parler des Grands Lacs, il faut aussi parler, à mon avis, du Sahel, qui est très important. Mais cette confédération des États du Sahel... qui est né finalement successivement d'un putsch à Bamako, d'un putsch au départ pour des civils, le président Ndo et son premier ministre Mokhtar Ouane, qui sont déposés un an après par Assimi Goïta, colonel de son état, aujourd'hui couvert d'étoiles, 5 étoiles, belle promotion. Pour emmener son pays dans une impasse, parce que le pays est dans une impasse aujourd'hui. Au Niger, c'est pareil. Un président élu, le président Bazoum, qui est, à mon avis, un des meilleurs présidents que le Niger ait connu au cours de sa jeune histoire, et qu'on dépose au bout de 2 ans, qu'on fait déposer par le président, par le patron de sa garde présidentielle, le général Tiani, qui n'est pas un foudre de guerre. Bon. Et on laisse se créer des abcès, au lieu de les gérer intelligemment, en anticipant, parce qu'à chaque fois on avait les informations, on laisse pourrir la situation, et sans vouloir jouer la politique de la canonnière à la méthode Sarkozy, hein, mais en Côte d'Ivoire, que j'évoquais tout à l'heure, mais il y avait moyen de désamorcer ça. Je sais que par exemple au Mali, je suis bien placé pour savoir qu'au Mali, lors du putsch qui a débarqué Ibrahim Boubacar Keïta, les deux civils promus par les militaires comme président de la transition et premier ministre de la transition ne demandaient qu'une chose, c'est que la France les aide. Et nous leur avons tourné le dos. Ça avait été le cas en Mauritanie quelques années plus tôt avec Aziz. Et là, la France avait compris qu'il fallait aider Aziz. Voilà. Bon. Tout ça, ce sont des ensembles de fautes.
C'est un métier, hein.
Oui, ça c'est un métier. Il faut des diplomates et des vrais diplomates et des militaires, mais et formés à l'école africaine, je veux dire. Parce que le terrain africain n'est pas le terrain de l'Union européenne ou d'autres régions du monde.
Il y avait quand même dans le temps des troupes qu'on appelait coloniales.
Oui.
Moi, je me suis engagé 18 ans et demi. Dans la coloniale, je devais le trouver de marine après, mais dans la coloniale. Et c'était des gens qui savaient, qui connaissaient le terrain.
Oui.
Et on aurait dû les préserver, les consulter, pas leur demander d'agir, mais les consulter parce qu'ils connaissaient bien ce qui se passait.
Ils connaissent en général très bien le terrain. Et moi, quand il y a quelques années, hein, maintenant ça remonte à pas mal d'années en arrière, mais quand j'ai vu tout ce qui se passait au Sahel, à partir du Mali... le Burkina qui bougeait, le Niger qui n'allait pas tarder à l'être, le Tchad aussi. J'avais dit, mais pourquoi est-ce que on ne nomme pas un chef militaire de renom, respecté ?
Tout à fait.
J'avais un ou deux noms, qui connaît parfaitement ces pays et qui peut coiffer les ambassadeurs pour les mettre d'accord et que la politique soit cohérente et une vis-à-vis de ces pays. et respectueuse en même temps.
Et basée sur le respect.
Et absolument, voilà. Oui. Et donc ça, c'est une chose qu'on n'a pas faite. On a laissé un peu les choses se délabrer. Et après, on regrette et on pointe du doigt les méchants chinois, les méchants turcs, les méchants russes. Mais c'est un peu facile.
Oui. Et en plus, sur le plan économique et sur le plan financier, on a aussi laissé faire le Liban.
Oui.
Surtout les Libanais, pas le Liban, mais les Libanais.
Oui, alors les Libanais qui sont en particulier en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et au Sénégal, bien sûr. Mmh. Au Sénégal, ils sont très, très, très nombreux aussi. Mais on prit en compte un peu l'économie locale, hein, c'est évident. Mais là aussi, je pense qu'on a des liens anciens avec le Liban.
Ben oui, mais...
bon, il y a des choses qu'on aurait pu faire vraiment.
Tout à fait.
Quel gâchis, quand on regarde tout ça avec. Quel gâchis. Ouais.
L'Afrique, on reviendra sur les Grands Lacs, la région des Grands Lacs après, mais sur cette Afrique, disons ex-française, pour moi elle est ex-française ou francophone.
Francophone, ils vont mieux dire francophone parce que n'excluons pas le Congo.
Tout à fait francophone. Y a-t-il une chance pour que ça revienne dans notre giron ?
Alors, moi je pense que, vous savez, je pense que comme dans les ménages, il y a parfois des... Il y a des moments
de rupture
et puis de dispute et de rupture. Je pense que oui, parce que on vient de prononcer le nom. Il y a ce mot francophone. Donc finalement, quand Assimi Goïta nous traite de tous les noms, quand le général Tiani au Niger nous abreuve de noms d'oiseaux, etc., etc., ils le font en français, hein.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Et
oui,
même quand le brave colonel Djibro, qui est l'ancien SEMAT nigérien, il y a deux ou trois jours, dit on va faire la guerre à la France, il le dit en français. Donc tout ça, je pense qu'il y a des postures, et je pense qu'il y a un moment donné où ces régimes qui n'apportent pas de sécurité, au contraire, qui n'apportent pas donc de paix et de développement derrière à leur population, ces régimes ne tiennent pas très longtemps.
Non, normalement non.
Et oui, normalement non, mais je pense qu'il y a, il y a des cycles. Et,
oui.
Et je pense qu'à un moment donné, se réétablissent. Moi, je vois dans ces pays-là où j'ai beaucoup séjourné, beaucoup encore récemment, hein, la population est amicale vis-à-vis des Français.
C'est vrai.
La population.
C'est vrai.
Alors, l'administration peut ne pas l'être à un moment donné. Mmh. Elle peut nous faire des misères, elle peut être anti-française par principe. Il y a aussi des questions idéologiques derrière. Hein. Mais encore une fois, balayant devant notre porte, je pense que si beaucoup de ces pays regardent aujourd'hui, par exemple vers la Russie, vers Poutine, qui a une aura aujourd'hui et un prestige considérable dans ces pays, c'est parce qu'ils ils ne peuvent plus l'avoir chez nous.
Tout à fait.
Vous voyez, il y a un vide. Et alors, la nature a horreur du vide. Il faut
absolument.
Donc combler le... Voilà. Mais moi, je pense que je suis... Il y a des gens qui pensent que c'est fini, la relation franco-africaine.
Pas vous, moi non plus.
Moi, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a des liens solides. Vous avez... Alors, il y a le problème des visas aussi, dont on pourrait parler. Il y a le problème pour les étudiants qui veulent venir en France... Certains pays préfèrent les envoyer aux États-Unis. Maintenant, c'est plus facile.
Bah oui.
Hein? Il y a ce problème des young leaders sur lesquels on pourrait parler, etc. Mais je veux dire, nous, on a plus de politique là-dessus. Mais il suffit de la rétablir, la politique.
Vous avez raison.
Mais il faut que les actes suivent les paroles.
Il y a trois jours, je téléphonais à un grand défenseur de la langue française et de la francophonie, l'ambassadeur Salon. Et je lui disais, monsieur l'ambassadeur, quand vous écoutez tous ces types qui ont fait des putsch, etc., et qui s'expriment tous en français, aucun dans une autre langue.
Bien sûr, parce que c'est la langue unitaire, en fait, de tous ces pays, entre la confédération du Sahel créée par nos trois régimes putschistes. Il y a tellement de langues locales que la véritable langue possible de la confédération, officiellement, le passeport de la Confédération, il est en français. Hein.
Oui, oui. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que des gens comme vous, qui avez l'expérience, commencez à guider un peu nos futurs dirigeants sans se préoccuper des partis politiques des uns des autres. Tous. Tous les éduqués, si c'était possible.
Vous avez raison. Je pense qu'il y a des gens, il y a des expertises de bon niveau. Vous voyez, moi, j'ai mon ami Bernard Lugan, par exemple, qui est un petit peu pestiféré, qu'on a mis à l'index, parce que, pour des raisons qui sont, qui concernent l'étiquetage politique intérieur français, mais qui ne concernent pas son expertise, qui est libre et indépendante, et qui relève de. De nos intérêts nationaux. Absolument. Sa lecture, c'est celle de nos intérêts nationaux, en même temps que l'amour qu'il a pour l'Afrique et les Africains. Il connaît très bien certaines régions d'Afrique et on ferait bien de l'écouter.
Oui.
On l'a chassé de l'école de guerre, on l'a chassé des écoles de Kouetkidan, là où il était utile. Vous savez, moi, il y a une 20, maintenant plus longtemps, ça fait, j'ai quitté l'armée il y a 26 ans.
Ah, dis-moi.
j'ai tendance à en 2000. Mais il y a eu une époque où j'étais en poste à l'état-major de l'armée de terre. Et je me souviens qu'il y avait un groupe de travail qui avait été formé pour la dissolution des troupes de marine.
Ah oui.
Et alors, moi, j'étais évidemment, je représentais mon bureau de l'époque, le bureau auquel j'appartenais, à l'EMAT. J'avais dit, mais c'est une folie, cette idée-là. Il y a un concentré d'expertise, de connaissances humaines, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, formidables.
Et qu'est-ce qu'on était bien entre nous.
Patrimoine détenu par les troupes de marine,
tout à
et
fait.
Vous voulez détruire ça.
Ah non, il ne faut pas.
Mais c'est aberrant.
Oui, tout à fait, il ne faut pas. Alors pour vous, on a des chances, si on s'y prend bien, si on ne joue pas nouveau cow-boy ou à je ne sais pas quoi, de retourner sous d'autres formes en Afrique.
Oui, parce qu'il faut s'adapter. Oui,
je pense
que, alors d'abord, l'Afrique, il y a un phénomène c'est le phénomène démographique.
Ah oui.
Si vous prenez un pays comme le Niger, en 1960, il y avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 23 millions d'habitants.
Ouais,
et avec une proportion de jeunes qui est écrasante. Je ne sais pas combien il y a. C'est 60, peut-être 60. J'ai dit ça. Je dirais au jugé, mais il doit y avoir au moins 60% de jeunes dans des pays comme ça, peut-être davantage. Et donc, on a un vrai problème. Il faut les prendre. Et puis, il y a une des révolutions technologiques. Vous êtes dans un village africain. Il y a un groupe électrogène qui permet de recharger les smartphones. Et ils ont tous le nez, comme nos jeunes dans le métro, le nez sur le smartphone. Donc, je veux dire, il y a des choses à prendre en compte, mais. Bien entendu qu'il y a des choses à faire, et je pense que ça vient d'abord du haut de la pyramide, chez
tout
nous,
fait.
Hein, la volonté.
Il y a aussi des gens comme nous qui connaissons un petit peu, et qui pouvons quand même convaincre nos concitoyens qu'il y a la France est une grande puissance, et reste une grande puissance grâce à ses territoires d'outre-mer.
Bien sûr.
J'en suis persuadé.
Bien sûr.
Mais ses relations avec les pays francophones, c'était le deuxième atout de la France.
Bien sûr. La France a l'avantage de son domaine maritime.
Absolument.
Et ultramarin qui va avec.
Tout à fait.
Et puis de ce passé africain qui est quand même conséquent.
Absolument. Je me bats aussi pour les. Enfin, je me suis battu pour les eaux territoriales, bien sûr. Bien aidé, il y avait Philippe Folliot, sénateur aujourd'hui, qui nous a aidés, qui a fait un livre magnifique avec Xavier Louis, France sur mer, un empire oublié qui était exceptionnel. Je continuerai à me battre pour ces territoires d'outre-mer, mais il faut aussi qu'on retourne en Afrique parce qu'on est bien ensemble.
Oui.
On vit bien avec les Africains lorsqu'on les connaît, lorsqu'on les respecte, et lorsqu'ils nous respectent aussi.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous, et vous avez raison de dire ça, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de, dans certains pays africains, je parlais des États du Sahel, une espèce de russomania aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer.
Non, ça ne peut pas durer.
Parce que j'aime beaucoup la Russie et je considère que la Russie n'est pas notre ennemi, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui en France. Mais je pense que les Africains et les Russes, ça ne colle pas
ensemble.
Ça ne peut
pas coller.
Il y a trop de différences fondamentales entre eux. Alors, ils ont beau avoir l'université Lumumba à Moscou, etc. Mais je pense que... hormis une frange restreinte d'élites africaines qui sont sensibles à l'accueil qu'on peut leur faire de manière un peu privilégiée, etc.
Je serais plus méchant que vous, mais enfin bon.
Oui, non, mais je le dis, oui, mais je veux le dire sans animosité parce que...
vous avez raison.
Mais en réalité, si vous voulez, quand on voit la situation sur le terrain aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina, où les Russes sont censés nous avoir remplacés, c'est catastrophique.
Absolument.
C'est une débandade.
Tout à fait.
Il y a eu des épisodes tragiques et il y en aura d'autres. Ce que je pense profondément.
Moi, je partage tout à fait votre sentiment. La région des Grands Lacs, alors.
Alors, la région des Grands Lacs, autre sujet brûlant.
On l'a.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a trois sujets brûlants. Il y a vraiment le Sahel, les États du Sahel. Il y a bien sûr le Soudan, mais on est un peu hors de notre champ à nous. Ça touche le Tchad, etc. Mais c'est dramatique aussi, ce qui se passe au Soudan. Et puis, il y a la région des Grands Lacs. Et la région des Grands Lacs, alors ça me tient à cœur, parce que moi, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai servi en particulier lors de l'opération turquoise au Rwanda en 94. Et que j'ai jamais décroché de l'actualité de ces pays-là. Je me souviens avoir assisté à Nice en 96 de mémoire, donc 2 ans après, un colloque organisé sous la présidence de Pierre Messmer. J'étais placé à côté de lui et on a parlé évidemment.
Qui connaissait l'Afrique.
Qui connaissait bien l'Afrique, oui. Ancien de l'école d'outre-mer.
Tout à fait.
Vieille expérience, solide expérience africaine, et j'évoquais la situation déjà des Grands Lacs qui commençaient déjà à s'infecter terriblement du fait de ce petit pays que j'appelle la Prusse des Grands Lacs, qui est le Rwanda,
en fait. Rwanda.
Le Rwanda de Kagame, arrivé au pouvoir en 1994. Président en 2000 et depuis toujours président réélu avec un score stalinien. Cet homme, alors, est animé d'une haine réelle contre la France, mais il a trouvé un public plutôt conciliant en la personne de Monsieur Sarkozy d'abord. Une parenthèse, il faut reconnaître les choses. Hollande, non, pas trop. Et puis ça a renoué vraiment, alors très fort avec Monsieur Macron. Et donc, et là-dedans, passez-moi l'expression, on est sur Radio Courtoisie, c'est important de parler un bon français, mais on est roulé dans la farine.
Oui.
Vous voyez. Alors, Paul Kagame est l'homme qui déstabilise la région des Grands Lacs depuis 1994 avec des objectifs bien, bien déterminé. C'est le pillage des ressources minières fabuleuses de l'est du Congo, des provinces du Katanga autrefois, le Chaba, le Kivu, l'Ituri, etc. Et qui y envoie pas forcément son armée, mais qui y envoie ses proxys, comme disent les Américains, c'est-à-dire les milices, comme le M23 par exemple, qui se livrent à des horreurs quand même depuis 1994, ce sont des millions de morts au Congo dont personne ne parle. J'ai participé en novembre dernier à la rédaction d'un numéro quasiment spécial de la revue Omerta, que je recommande aux lecteurs qui s'intéressent. C'est un média ami qui a fait un numéro spécial sur la région des Grands Lacs, en particulier sur le Congo. C'est épouvantable. Et tout ça est connu. Il y a eu un rapport mapping de l'ONU il y a maintenant pas loin de 20 ans, qui est resté enfoui dans les tiroirs de l'ONU parce que on dit les choses comme elles sont. Alors elles sont dénoncées, par exemple, par un grand Africain, qui est le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix il y a quelques années, et qui est le chirurgien en Swahili, on dit l'homme qui sauve les femmes, en fait, qui opère les femmes. Les femmes victimes de viols de masse, je parle de bébés jusqu'aux femmes très âgées. Hein. C'est l'horreur absolue. Voilà. Et donc, et nous, on ferme un peu les yeux, tout ça, parce que derrière, il y a des enjeux économiques fabuleux. Finalement, la traite du coltan, de l'uranate, de l'or, du diamant, du zinc, du bauxite, enfin, ce que vous voudrez. Donc, le Congo, c'est quand même un sacré sujet. Donc, il y a une guerre entre le Rwanda et le Congo. Elle a été théoriquement terminée sur l'intervention dynamique de Trump comme il sait faire pour imposer la paix, soi-disant. Je pense que c'est quand même une paix fragile et qu'il y a des incidents pratiquement tous les jours. Voilà.
Mon colonel, on est arrivé au terme de notre émission. Moi, je vous remercie parce que... Mais vous n'avez pas tout dit et je vous réinviterai si
non,
vous
me
le permettez.
Non, il y a plein de choses à dire, mais... parce que je suis bavard en plus, excusez-moi.
En plus, c'est clair, c'est net, c'est précis. On sent tout de suite. Nous, on a des choses à apprendre et c'est très bien. Mon colonel, je vous remercie énormément de votre visite. Je vous réinviterai, mais je saurai la prochaine fois qu'il faut que je vous invite pour beaucoup plus de temps.
Non, mais merci beaucoup pour votre invitation. Ça touche beaucoup. Oui. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrault, assisté d'Alain Rohu, émission préenregistrée le 17 février 2026 et diffusée pour la première fois mardi 3 mars 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.